Sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop du bien, ça
dégourdit
les jambes, allez-y.
J'adore sortir, moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez chez vous,
sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, les touches fermes, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette, c'est trop intéressant. Allez-y quoi.
Sortez.
Vous voulez sortir?
Écoutez,
sortez.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sors !
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Sortez, la quotidienne socio-culturelle étudiante Tourangelle. Nous sommes le vendredi 24 février 2023 et nous sommes en direct du studio de Radio Campus Tours. Donc souvenez-vous, cette semaine n'est pas une semaine comme les autres, car si vous avez suivi les émissions du début de semaine, vous savez que en l'absence d'Antoine, je vous ai concocté pour vous une semaine sur le thème des différentes questions en lien avec le sujet queer LGBTQIA+. Donc pour vous résumer ce que vous avez pu écouter depuis lundi, nous avons parlé fête et solidarité dans la communauté queer avec un reportage de Radio Campus Clermont-Ferrand. Nous avons aussi parlé minorité et tolérance avec la sociologue Irène Théry. On a aussi parlé de Freddie Mercury, de son rôle en tant que figure queer. Et j'ai eu aussi la chance d'interviewer Quenelle de Brest pour parler performance burlesque et littérature queer. Et aujourd'hui, pour le dernier jour de notre semaine Question Queer, je vous ai préparé une petite sélection de podcasts publiés par nos collègues de Arte Radio sur le thème de la semaine. Et on va commencer sans plus attendre par le premier podcast que j'ai choisi pour vous. Il s'agit donc de Dalida et moi, intérieur queer. Il fait partie d'une série de 5 podcasts appelés Dalida et moi. Le thème de cette série, qui vit encore avec Dalida? Comment ses chansons lui survivent aujourd'hui dans les cœurs, les esprits et les fins de soirée? À travers une approche sensible teintée d'humour et de mélancolie, Léa Weinstein décide d'enquêter sur cette personnalité enchanteresse entre ultra-féminité et androgynie. Sur sa mélancolie malgré les strass et les paillettes, sur son parcours de femme orientale exilée, sur la malédiction qui semble planer sur ses relations amoureuses, à chaque thème correspond une rencontre avec un fan inattendu, un psychanalyste, un chanteur travesti, un écrivain marocain, un fessier, un philosophe traduit dans le monde entier. Son podcast raconte son année avec Dalida, une année à chanter dans sa voiture, à errer sur YouTube en pleurant et à tenter de comprendre. Et si Dalida, loin d'être ringard, était une histoire de transgenre, de l'immigration et même une cougar avant la lettre. Et dans cet épisode, Léa se rend à la mairie du 18e arrondissement de Paris, où se tient chaque année la réunion du fan club officiel de Dalida. Au milieu des mugs, des coussins et des posters géants, elle rencontre Lulu, qui incarne Dalida chaque soir en travestie au célèbre cabaret de Michou. On écoute ça tout de suite dans Sortez.
Cela fait un an maintenant que je vis avec Dalida. Et je cherche toujours à comprendre ce qui chez elle me touche, au point que je passe mon temps libre à l'écouter. Mon portable est rempli de photos d'elle depuis que je suis le hashtag Dalida sur Instagram, qui est un mélange de portraits vintage magnifiques de la chanteuse et de photos de jeunes femmes, souvent marocaines, toutes plus belles les unes que les autres, et qui ont Dalida comme prénom. J'allume même mes cigarettes avec elle, puisque j'ai désormais un briquet à son effigie avec, sur une face, Dalida en robe à paillettes fendue, sur l'autre face, écrit en doré, Dalida Forever. Dalida et moi. Une série de Léa Weinstein. Épisode 4, Dalida, intérieur, queer.
Léa.
En fait, voilà, je me suis rendue pour ce que je pensais être les besoins de ce podcast à la réunion annuelle du fan club de Dalida.
Allô ?
Où est-ce qu'on en était là ?
Oui, bonjour, c'est Thierry ?
C'est à la mairie du 18e arrondissement de Paris et il y a cette année comme invité le chanteur Frédéric François, attendu comme le Messie.
Vous êtes là pour Dalida ou pour
Frédéric ? Ah oui, non, Dalida.
Vous venez pour Frédéric François ?
Non, moi je viens pour Dalida.
Ah, d'accord.
On vend des posters de Dalida en Corse et beaucoup d'autres produits dérivés dont j'aurais même pas osé rêver.
Alors, qu'est-ce que vous avez pris ?
Alors, j'ai pris deux posters.
Deux posters, il est là.
Je savais pas que j'avais des
deux
coussins
posters.
Aussi. Vous en avez toujours des coussins ?
Pardon ?
Des coussins, vous en avez toujours ?
Eh non, on les a finis. Vous auriez dû me le dire, j'aurais voulu le garder. J'aurais dû vous laisser mon numéro de téléphone.
Il y a même un puzzle.
Je dois quand même dire que j'ai senti que je touchais là à une sorte de limite.
solita strada, bianca come il sale.
Si je suis venue, c'est parce que depuis le début, j'ai envie de rencontrer des fans. Ceux qui vivent avec elle, comme moi depuis un an. Comme ces deux jeunes garçons que vous entendez chanter. Et c'est là que je tombe sur Lulu. Lulu est plus qu'un fan. Lulu est Dalida, tous les soirs. Et elle va me reconduire là où l'histoire avait commencé, au cabaret.
Donc à la ville, vous êtes Lulu, voilà. Et à la scène, vous êtes...
Ah, Dalida, complètement. Ah oui, ça, je me transforme et je rentre dans le personnage. Avant de rentrer sur scène, d'abord, je fais les mêmes saluts, je m'agenouille comme elle, je fais le regard comme elle, je fais le même sourire. Elle avait toujours regardé les yeux comme ça sur le côté, comme si elle était étonnée qu'on l'applaudisse autant. Je fais tous les mimiques, je suis Dalida.
C'est samedi soir et me voici de retour rue des Martyrs à Paris, près du métro Pigalle. Mais chez Madame Arthur, là où j'avais réentendu Dalida pour la première fois, il y avait quelque chose de branché. Là-bas, les trentenaires se dévergondaient légèrement dans une esthétique ultra maîtrisée. C'est ce qu'on appelle maintenant le burlesque, un striptease sous influence queer et féministe. Et ça remettait Dalida au goût du jour.
Ah, vous êtes par Oscar, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui, je viens de l'appeler, il arrive. Ouais.
Chez Michou, on est juste en face, au numéro 80. Mais c'est déjà un autre monde.
Tire bien la porte. Merci. La salle est juste derrière. On est au niveau zéro.
Les tables sont remplies de touristes.
Non. Ah, et là, il y a les gens qui dînent, en fait.
Bedonnants, fatigués de leur tour de la journée. Et avec le champagne, ils commencent à s'endormir. La salle est petite, il fait chaud et Michou se fait vieux. Toujours tout en bleu, mais presque aphasique, il fait peur. À l'entrée, Dalida est là. En photo, mais au premier degré. C'est un pilier, un dinosaure du cabaret.
Sa vie fut de gloire et de larmes. Elle fut l'une des chanteuses les plus populaires durant près de 30 ans. Et si aujourd'hui, elle chante avec les anges, accompagnée par les harpes du ciel... Elle reste pour nous le symbole d'une joie de vivre qui, depuis longtemps, l'avait quittée. Ciao, bambina. Dalida.
J'ai rendez-vous avec Oscar, le metteur en scène du spectacle, qui me conduit dans les coulisses.
Ben là, les garçons sont en train de se maquiller. Enfin, les serveurs artistes sont déjà maquillés. Ils sont sur le plateau en train de travailler déjà, en train de faire le service. Et puis en bas, dans les loges, il y a les artistes qui ne font que le spectacle, qui sont en train de se préparer. Et dans 40 minutes, on lance le spectacle. Donc les serveurs vont descendre, ils vont changer de maquillage, se rhabiller, ils repartent sur scène. Et les autres seront prêts pour démarrer le prologue et le spectacle.
Et toi, t'es prêt là ?
Moi, je suis prêt, oui. Moi, je démarre dans une demi-heure, je suis prêt.
Émerveillée, j'assiste à la métamorphose. Oscar, avec son rouge à lèvres de la calasse.
Ah, Lulu !
Eva, avec ce collant conçu pour masquer le relief de son sexe sous sa robe de Mylène Farmer. C'est comme s'ils osaient des possibilités que la plupart d'entre nous n'explorent plus depuis longtemps.
Vous prenez les vestes ? Nous ne sommes que des clowns avec des robes. Ah oui. Ben oui.
On n'est pas des clowns. On est là pour faire rêver. Il dit n'importe quoi, là.
Divertir.
Depuis que je dis que je travaille sur Dalida, on me pose souvent la même question, qui me surprend à chaque fois. Alors, c'était un homme ou une femme ? C'est vrai qu'il y a chez elle de l'androgynie. On pourrait presque dire du transgenre. Apparemment, Dalida n'en avait pas conscience. Ça appartenait à son personnage de scène. Au contraire, elle s'amusait de surjouer la féminité, d'en forcer tous les traits, robe, cheveux, maquillage. Ce visage masculin, ce haut du corps et cette mâchoire un peu carrée, c'était comme son strabisme, des imperfections qu'elle cherchait à masquer. Dalida était drag queen sans le savoir. Elle aussi se métamorphosait, et en cherchant à cacher son androgynie, elle l'a montré sous ses traits les plus exagérés. Comme quand vous cherchez justement par le maquillage à cacher vos cernes. On les voit encore plus parce qu'on voit tout le fond de teint que vous avez mis dessus.
Ils m'ont fait une cassette, donc il y a toutes les télés que j'ai fait, enfin une partie. Lulu, Dalida, sa passion.
Lulu ou Dalida.
Voilà, ou Dalida. Voilà, Lulu ou Dalida, sa passion. Ça, c'est un sacré soirée. Et il y a plusieurs émissions. Hein. Il y a Sébastien, tout ça. Et ça, c'est la robe que je viens de faire que Michou a payée. Vous voyez cette robe-là, donc vous avez les photos. Et vous voyez, bonne année 84, Dalida. Vous l'avez dédicacée, que j'ai fait faire cette robe.
C'est une robe rouge. Ah non, c'est rouge
c'est
ou rose
cape. Ça, c'est la cape. La robe, voilà, la robe. Rouge et noir. Voilà, la robe rouge et noir. Et c'est des bretelles croisées. Ça, c'est la robe avec qu'on l'a enterrée. C'est la robe qu'on a enterrée, c'est la maison Vicaire. Donc ça, c'est Azaro qui avait fait. J'ai fait une copie d'après les photos, vous voyez.
En strass.
Non, ça, c'est tout en paillettes.
Ah, c'est des
paillettes. C'est des paillettes, ça. Voilà, le strass, c'est ça.
Ah oui, c'est pas
faut
pareil.
Pas tout confondre. Alors, la robe, c'est de la mousseline avec strassé en strass. Pailleté, c'est pailleté plusieurs paillettes. Ça, c'est des tubes de verre, les petits. Et c'est fini par un tube de verre, la finition. Vous voyez, tout ça. Alors ça, c'est des robes qui valent 8000 euros. C'est tout fait main. Et elle est entière avec ça. Mais ça, c'est le bruit de toutes les tubes de verre, des paillettes, des strass. Vous voyez, elle est lourde, hein.
On peut la faire.
Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez comme chanson, vous, Dalida?
Ah, moi... Je pense que mes deux préférées, c'est peut-être Pour ne pas vivre seule et L'histoire d'un amour, j'adore.
Ah oui, c'est vrai.
Vous l'aimez pas, vous?
Si, mais c'est tellement ancien.
Ouais.
Ah oui, Gloria Lasso chantait ça. Ah oui. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, genre d'ici ou bien d'ailleurs.
Oscar, le metteur en scène, m'a avoué que lui, il n'écoutait jamais Dalida. Je n'écoute que France Musique.
Et l'on voit des garçons épouser des garçons.
Il me dit alors avoir entendu un philosophe parler de Dalida dans une émission consacrée à la musique classique. Il s'appelle Jean-Luc Nancy. Pendant mes études de philosophie à Strasbourg, j'ai beaucoup lu Jean-Luc Nancy. Il y a même quelques pages sur lui dans ma thèse. Je suis allée plusieurs fois l'écouter, sans jamais oser l'aborder directement. Alors en rentrant, il est tard, mais je me jette sur mon ordinateur pour retrouver cette archive. Et je suis tout émue de découvrir que Jean-Luc Nancy aime autant que moi l'histoire d'un amour de Dalida. Alors, pour clore mes portraits de fans et ma recherche sur la mélancolie, je pourrais peut-être essayer de le rencontrer.
Donc, cher Jean-Luc Nancy.
À suivre sur arteradio.com.
Nous avons manqué plusieurs occasions de nous rencontrer. Enfin, pas vraiment nous rencontrer, mais.
De retour dans Sortez, j'espère que ce premier podcast vous a plu et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'aventure de Léa sur les pas de Dalida, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de la série Dalida et moi sur le site d'Arte Radio. On enchaîne maintenant avec le deuxième podcast que je vous propose dans cette émission. Je vous ai donc choisi le podcast Le complexe du poil de Mathilde Bio. Je vous lis le synopsis. Donc Mathilde est née en Vendée dans les années 80, dans un milieu où l'homosexualité n'existe pas. Elle a dû se battre pour pouvoir accepter et vivre la sienne. À force de lecture et de militantisme, elle a enfin pu trouver son identité de Gwyn au sein de la communauté queer. Enfin, elle croyait savoir qui elle était. Et puis un jour, elle s'est mise en couple. Elle a réalisé qu'elle ne savait pas allumer un poêle à bois et tout s'est écroulé. Un regard personnel et drôle sur le couple, l'identité LGBT et le pouvoir des normes. Je vous laisse donc profiter de ce podcast et on se retrouve juste après sur Radio Campus Tours 99.5 FM.
Bon alors, je vais mettre ce poil. Hop, alors je prends un peu de papier.
Le poêle à bois. J'arrive jamais à l'allumer. Je sais pas comment ça marche. C'est Maya qui l'a choisi quand on s'est installé ensemble à la campagne. Heureusement qu'elle était là, parce que moi j'ai vraiment pas les compétences.
Ça, c'est bon. Et du coup, pour allumer le poêle, c'est effectivement...
Maya.
T'as des gens qui... T'allumes d'abord un bout de papier, donc comme ça, ça fait une grosse flamme qui chauffe le conduit. Et après...
C'est ma copine, mon amoureuse, ma compagne.
Allez, allez. Oh non, ça fume partout. Ah, je le ferme.
On vit en couple depuis quelques temps maintenant. Oui, elle, c'est une fille. Juillet 2019, il y a 6 mois.
Là, je vous présente ma copine, Maya.
C'est le mariage de mon cousin. J'ai pas peur. J'ai pas honte.
Vous connaissez un poêle à bois, vous ?
Je suis prête à leur dire enfin, à 35 ans passés, que moi, Mathilde, je suis lesbienne.
Non, parce que moi, j'y connais rien.
Et qu'on s'installe ensemble avec Maya. Quand on est homo, on doit passer par cette étape. On doit se confronter au jugement et à la haine des autres. Je suis prête. C'est le grand jour.
Possible.
Je suis super contente pour toi, mais c'est super.
Bah.
Ça fait chaud au cœur de voir que tout le monde va bien et que tout le monde est heureux.
Bah non.
Franchement, je suis trop contente pour toi. Que tout le monde fait sa vie. Et...
Mais...
Cool. Mais ça fait longtemps que vous êtes toutes les deux ou...
Je comprends pas ce qui se passe.
Moi, c'est très bien. Encore heureux, je n'ai pas dit...
Eh oh, il y en a pas un pour me cracher dessus ?
Heureux, heureux comme tout.
Bah, au moins que quelqu'un soit mal à l'aise.
Et quand est-ce qu'on peut la voir alors, Maya ?
C'est bizarre. On dirait qu'il y a une erreur dans le scénario. Il et elle ont entendu que je m'installais en couple, qu'on allait acheter un nouveau poêle, qu'on cherchait une maison, mais ils n'ont pas entendu que j'étais lesbienne. On dirait que ça n'a aucune importance pour eux. Je m'attendais pas à ça. Je crois même que je suis un peu déçue. C'est idiot. Ça devrait me faire plaisir.
Au départ, on n'aurait jamais imaginé, nous, un couple qui soit deux femmes ou deux hommes. Ça ne paraissait pas un couple normal.
Mes parents sont nés en Vendée dans les années 50. Ce sont eux à qui j'ai annoncé en premier la bonne nouvelle. Et j'avais quelques raisons de m'inquiéter.
Pour moi, normal, c'est quand même un homme et une femme. Donc, dans ce sens-là, c'est pas normal. C'est vrai que dans notre culture, c'était un truc qu'on n'imaginait pas, en fait, quand on était plus jeune. Et la première fois que tu nous as expliqué que tu avais une copine, il y a 10-12 ans, là, maintenant, moi, ça m'a quand même perturbée, hein, très beaucoup. Ben, j'acceptais pas. Ils disaient que c'était pas possible, que ça avait pas de sens. Enfin, pour moi, c'était vraiment un truc complètement aberrant.
Nous, en Vendée, on a été bercés, en particulier, dans cette culture judéo-chrétienne. Moi, collège hyper réac, comme tu dirais maintenant, quoi. Hein, lycée, pareil. Une famille vraiment ancrée dans la religion. Que ce soit la grand-mère, un oncle curé... Et donc, on a eu beaucoup de mal. Enfin, dans ma famille en particulier, on avait un peu mal accepté, quoi. Enfin, et je me souviens qu'on s'est retrouvés tous les deux là, sur le côté, et qu'on s'est disputés, quoi. Et puis, je t'avais demandé comment tu voyais l'avenir, etc., quoi. Mais je t'avais montré que c'était pas trop d'accord, quoi. Et depuis, j'ai beaucoup évolué dans ma tête. Parce que finalement, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas ? La normalité évolue. Hein.
On en a discuté, on a entendu beaucoup parler à la télé, à la radio. Et c'est vrai que ça évolue et maintenant ça passe. Et finalement, bah, on se dit bah, pourquoi finalement c'est pas... Voilà, c'est devenu à peu près normal, on va dire. J'ai bien à peu près.
À peu près.
Rien ne me préparait à devenir normale.
Normale.
La première fois qu'une fille m'embrasse, j'ai 24 ans. Je deviens homosexuelle, lesbienne.
Normal. Adjectif.
Le sentiment qui prédomine, c'est la honte.
Qui ne surprend ni dans un sens ni
dans l'autre.
Honte de lui tenir la main dans la rue. Honte d'être différente.
Courant, fréquent, habituel.
Honte de ne pas pouvoir être celle que mes parents auraient voulu.
Moyen, conformiste, qui n'a rien d'exceptionnel. Ouais, bah d'accord, c'est une insulte en fait, normale.
Et puis le temps passe. Je grandis. J'en ai marre d'avoir honte. J'en ai marre que d'autres s'expriment sur ce que j'ai le droit de faire ou pas de ma vie.
Nous les gueux, nous les peuh, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous ?
Je suis pas là avec mes saloperies, là. Je suis pas là.
Hey, vous lui laissez le drapeau, oh ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais si vous êtes une gouine, vous êtes...
Ah ouais, je suis une gouine. Oh, je vais vous contaminer, bouh !
Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite ?
Je grandis. Je découvre sur Radio Canu à Lyon une émission transpédéguine et féministe. Je grandis. Je commence moi aussi à faire de la radio. Je deviens gouine. Je deviens féministe. Je lis Wendy Delorme, Judith Butler, Monique Wittig, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes. Je vois les films Mutante, Baise-moi, One Night Stand, Too Much Pussy. Je découvre que les sexualités lesbiennes sont multiples, trash, inventives, imprévisibles et politiques. Je deviens queer. Être Gwyn, c'est pas seulement avoir du désir pour une autre femme, c'est bien autre chose. C'est foutre le bordel, c'est remettre tout en perspective, c'est repenser le monde à travers notre différence. Je remets en question le genre, la domination, la possession du corps de l'autre, l'amour. Je réinvente la sexualité et le plaisir, plus aucun interdit. Le monde s'ouvre à moi, le monde est à moi. Tout est possible.
Moi, maintenant, je dis vis-à-vis. Hein. Écoute, avec Maya, surtout quand on l'a connue, après, là, bon, on a trouvé ça plus satisfaisant.
Disons qu'elle nous est paru normale.
Voilà.
Est-ce que selon toi, on est normal ? Oui, je dirais qu'on est normal. Parce qu'on vit ensemble, on partage un quotidien, parce qu'on est... on a un fonctionnement exclusif. Ce qui quand même ressemble beaucoup au modèle dominant dans le pays dans lequel on vit, quoi. Donc oui, je dirais qu'on est normal.
À ce point-là, ça n'aurait jamais dû prendre un coup.
Et c'est pour ça aussi qu'on met le cheminée tout en haut au faîtage, c'est parce que le vent fait un effet d'aspiration. Qui va emmener, qui va évacuer ta fumée et faire aussi que la fumée part du foyer vers le haut, quoi.
Allez, petit feu, je crois, toi. Petit poêle.
Mais comment je peux être devenue normale ? D'aussi loin que je me souvienne, mon entourage m'a toujours perçue comme bizarre, un peu à côté de la plaque, un peu solitaire, qui n'aime pas trop faire comme les autres. Queer. C'est ça que ça veut dire en anglais. Bizarre, tordu, cinglé. C'est une insulte à la base que se sont réappropriées les communautés homosexuelles dans les années 80 aux États-Unis. Appelez-nous Gwyn, PD, enculé, salope. On vous répondra oui. Et alors ?
Ah, ou alors une omelette aux champignons ?
Mais depuis que j'ai annoncé que je m'installais en couple avec ma copine, j'ai l'impression que le regard des gens a changé sur moi. Il ne me voit plus comme une fille bizarre, mais comme une fille normale, qui rêve comme tout le monde de s'installer en couple dans une jolie maison et de faire tout un tas d'enfants. Mais ça, c'est le rêve de tout le monde, ça ne peut pas être le mien.
Ne gâchez pas mon célibat, par vos conseils si délicats, ça vous déçoit, ça vous dérange, vous déconseille, tout vous arrange. Moi je savoure ma liberté. Et peu m'importe les années.
Quand j'étais enfant, j'adorais cette chanson. C'est Christine Elia. C'est une chanteuse qui venait tous les ans à la salle polyvalente de mon village. J'étais fan. Je me disais, quand je serai grande, je serai comme elle. Je serai célibataire. Toutes mes copines et mes cousines rêvaient de mariage et de prince charmant. Moi, cette idée me dégoûtait un peu. Je comprenais pas trop le délire. J'ai grandi et le couple est resté pour moi un objet mystérieux et inaccessible.
C'est un statut social d'être en couple. Ça va, quoi. Ça, c'est bon. Enfin, tu vois, t'es casé, quoi. Si tu l'es pas, c'est quand même bizarre. Attends, qu'est-ce qui cloche chez cette nana? Elle doit quand même avoir un truc un peu bizarre, quoi.
Moi, jusqu'à 35 ans, j'étais célibataire. Et être célibataire dans une société qui, depuis ton plus jeune âge, te biberonne à l'amour, dans les chansons, les romans, les films, les pubs, les contes pour enfants, c'est vraiment pas simple. Je me demande même si pour la majorité des gens, c'est pas plus queer, plus bizarre que d'être lesbienne. Par petites touches, sans méchanceté, on vous fait comprendre qu'on attend autre chose de vous. Par exemple, une fois à un mariage, on me place sans raison apparente à une table avec des gens que je ne connais pas du tout et qui ont tous au moins 10 ans de moins que moi. Ça me prend quelques minutes pour comprendre. Et oui, c'est la table des célibataires. Une autre fois, à un repas de famille, je décide de troquer mon jean pour un pantalon un peu plus habillé. Une tante prend ça pour une jupe et elle me dit « Oh, tu devrais t'habiller plus souvent comme ça, tu es très séduisante !» Une autre fois, je tiens ma nièce dans les bras et quelqu'un me dit « Oh, ça te va bien !» Ma copine Marion en a des tonnes, des histoires comme celle-là.
Et donc du coup, tu me demandes si c'est pesant pour moi d'être célibataire ? Je crois que c'était plus la question d'être célibataire aux yeux des autres que vraiment la réalité de ce que c'était dans ma vie quotidienne. Parce qu'il y a plein de moments où je suis très bien toute seule. Quand je suis partie là en vélo, dans les moments où j'en ai le plus bavé, dans les montées les pires avec un vent de face et tout ça, j'étais mais trop heureuse de faire ça toute seule. Et je me disais, mais il y aurait quelqu'un avec toi, d'abord, tu râlerais contre lui ou elle. Donc ce serait franchement pas une bonne idée. Et puis j'avais vraiment du plaisir d'accomplir ce truc toute seule, en fait. Après, dans ma vie quotidienne, y a des moments où ça me pèse. Mais je crois que ce qui me manque plus, c'est de ne pas être amoureuse, en fait. C'est plutôt ça, d'avoir une relation un peu particulière, un peu stimulante avec quelqu'un, plus que... Je veux dire, il y a plein de couples qui ne me font pas rêver. Tu sais, on dit toujours « mieux vaut être seule que mal accompagnée ». Moi, je me dis même, après avoir lu « Mona Chollet, sorcière de Mona Chollet », je me dis en fait « mieux vaut être seule que de ne plus être soi-même ». Parce qu'en fait, il m'est déjà arrivé, moi, d'être dans une relation où je m'étais un peu perdue. Et parfois, je pouvais avoir tendance à tout prix avoir envie d'être en couple et donc, à ce prix-là, à nier un peu qui j'étais, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est ça que j'ai réussi à lâcher et qui me fait mais un bien fou.
Avant Maya, je n'avais jamais imaginé être en couple. Ça me paraissait tout aussi hostile et inaccessible qu'un poêle à bois. Et j'ai peur. J'ai peur de me dissoudre. J'ai peur d'oublier qui je suis. J'ai peur que mon esprit et ma colère ne se gentrifient. Vous savez, comme ces événements queer qui fleurissent un peu partout. Il ne reste plus grand-chose de la saveur d'origine. Il n'y a plus rien de subversif ou de bizarre. Mis à part peut-être le prix exorbitant des cocktails vendus sous le drapeau arc-en-ciel. Aujourd'hui, tout le monde aime les queers, tant qu'ils restent propres, bio et équitables.
Bon, il y a plein de fumée dans la cuisine par contre. Je vais ouvrir un coup. Un petit courant d'air, parce que... Il faut choisir entre l'asphyxie et le froid. Allez, petit poil, chauffe, chauffe, chauffe. Parce que là, avec les fenêtres ouvertes...
En parlant de ça, il m'est arrivé un truc bizarre quand j'ai présenté Maya à mon frère. Je sais pas pourquoi, j'avais encore plus peur que pour mes parents et le reste de ma famille. On est allé chez eux, chez elle, mon frère, sa compagne et leurs deux enfants, et on a pris l'apéro. J'avais si peur que ça se passe mal. En fait, il y a eu un coup de foudre immédiat entre mon frère et ma meuf.
Et après, t'as aussi des types de combustion, parce que t'as des poêles qui font des doubles, voire triples combustions, c'est-à-dire qu'ils brûlent tout ce qui a brûlé dans le bois, et du coup, ils ont un rendu énergétique très, très fort.
Il et elle ont parlé poêles toute la soirée. Moi, c'est vrai que c'est pas mon sujet de prédilection. Au lieu de me sentir soulagée, je me suis sentie hyper mal, dans un rôle pas taillé pour moi. J'étais là, je disais rien. Moi qui avais passé tellement de temps à déconstruire l'injonction à l'hétérosexualité, l'injonction à la féminité, l'injonction à être docile et raisonnable, j'étais la fille, ça craignait un max. On était des lesbiennes, ma meuf s'était transformée en bonhomme et moi en fille. Comme ça, pouf. Je me suis dit, ça y est, on est foutus. On s'est installés ensemble, on va acheter une maison et bientôt je lui laverai ses chaussettes pendant qu'elle boira sa bière devant la télé.
Pourquoi ça marche jamais du premier coup ?
C'est vrai qu'on a tout le temps eu dans l'idée que dans un couple homosexuel, que ce soit deux hommes ou deux femmes, qu'il y avait un peu le garçon et la fille, quoi. Il y en a un qui... Mais en fait, non. Les deux sont les deux, puis c'est tout.
Et du coup, tu penses qu'on tombe pas du tout dans les travers de reproduction de codes et de normes hétérosexuelles malgré nous ?
Moi, je me sens pas... Il y a pas de moment où je me sens genrée, en fait, dans notre couple. Moi, je suis grande baraquée avec les cheveux courts. Mais je m'habille plus féminin que toi. Et je mets des boudins et des jupes. Mmh. Et toi, à l'inverse, t'es plutôt habillée en mode masculin, mais t'as une apparence plutôt féminine. Mmh. Nous, notre couple, on est deux femmes. Et du coup, je pense que l'attitude et la prise de pouvoir, entre guillemets, et la capacité qu'on a de s'approprier un sujet dépend de chacune, quoi. Moi, je suis calée en poêle à bois, en assainissement. Toi, t'es calée en micro, système de son et technique de spectacle. Et t'en discutes avec des bonhommes quand moi, je discute de poêle à bois avec des bonhommes. Je me sens pas la fille, mais je me sens pas non plus incluse ou, tu vois, dans ces discussions-là. C'est pas le couple, le problème. Pour moi, c'est plutôt les dynamiques de domination dans le couple qui pose problème. Et c'était le cas dans mon ancien couple. Bah, c'était que j'étais en couple hétérosexuel avec un homme qui me laissait pas ma place de décision dans le couple, en fait. Il fallait que je m'extraie que ce truc-là, ça m'allait pas. Je l'ai vécu comme un besoin vital, vraiment. Si je voulais vivre heureuse, il fallait que je m'extraie de ça. Alors, être heureux, c'est peut-être un luxe, ouais, effectivement.
Là, je vous présente ma copine Maya.
Je suis super contente pour toi, mais c'est super.
Vous vous souvenez ? C'était au mariage de mon cousin. J'ai annoncé à ma famille que j'étais en couple avec une femme, qu'on allait s'installer ensemble, qu'on allait acheter un poêle à bois, et peut-être même bientôt, une maison. Et ça a rendu tout le monde heureux. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon identité. Celle de la Gwyn, fière, libérée et subversive. Je me suis mise à croire que je vivais la vie d'une autre, une fille comme tout le monde, dans un rêve qui n'était pas le mien.
Moi, ce qui m'a donné envie de m'installer avec toi, c'est parce que le quotidien était simple. C'est les petits déj qui m'a donné envie de m'installer avec toi.
C'est parce que tu voulais manger des tartines.
Ouais. Non, parce que c'était un moment très chouette où j'étais contente de partager ça avec toi. Et je me suis dit, bah, j'ai bien envie que ce soit tous les jours. Et pour ça, c'est quand même plus simple de se réveiller au même endroit. Et donc d'habiter ensemble. De partager des moments de stress aussi, de se soutenir. Quoi. S'il y en a une qui est un peu plus en fragilité ou en difficulté ou qui n'est pas très bien, que l'autre partage, ouais, partage aussi de plaisir. Quoi. De vivre ensemble et de partager des moments et des choses et des projets, et des trucs qu'on a envie de faire ensemble.
Quoi. Ouh! En tout cas, ça fait des grosses flammes. Bon, ben, c'est parti, là. Ça brûle bien.
En fait, nous, un couple, c'était fonder une famille. Enfin, pour moi. Maintenant, c'est beaucoup moins simple.
Non, puis un couple, c'est être avec quelqu'un à qui tu fais confiance, et puis quoi qu'il t'arrive. Quoi. Parce que finalement, tu serais célibataire, tu serais sans doute moins heureuse que t'es. Depuis quelque temps, là, tu parais assez épanoui, disons. Et donc. Et les parents, finalement, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Le bonheur des enfants. Donc, voilà.
Alors c'est juste ça. Je me suis installée en couple parce que je veux me réveiller avec la femme que j'aime, tous les matins. J'ai même envie d'acheter une maison avec elle, parce qu'un ruisseau traverse le terrain et qu'on a vu sur la montagne. Je veux être avec elle, souvent, parce qu'elle me rend heureuse. Bref, je suis comme tout le monde. Mais est-ce qu'à l'intérieur de ce modèle, on serait capable de rester queer, d'inventer autre chose? Vivre en collectif plutôt qu'à deux? S'aimer mais sans domination, avec du respect et plein de liberté? Rester bizarre? Ne pas se préoccuper de ce que pensent les autres? Ignorer toutes les injonctions sociales qui nous entourent?
Non, c'est vrai que c'est ce que je disais, nous, pour nous, à l'époque, un couple, c'était fonder une famille et puis avoir des enfants. Moi, j'avais une question quand même. Est-ce que vous pensez que vous aurez envie d'avoir des enfants ou pas?
Ah bah non, c'est quoi cette question-là? Je sais pas, moi. Ça peut être queer, un enfant, ou pas?
Arte. Radio.
Enfant. Point. Jeune être humain, sans différenciation de sexe.
Comme.
Oh bah ça va.
Et c'était le podcast Le Complexe du Poil, publié par Mathilde Bio sur Arte Radio pour Sortez. J'espère que vous l'avez trouvé aussi intéressant que moi. Et donc pour finir cette sélection de podcasts sur les questions queer, je vous ai sélectionné le podcast appelé LGBTQI de Émilie Valla. Le sexe, le genre, le queer, chaque été à Marseille se tiennent les universités euroméditerranéennes des homosexualités, aussi appelées rencontres lesbi-gay-trans-queer-intersexe. C'est l'occasion pour Kitty, lesbienne algérienne de 24 ans, et Pierre, artiste française du même âge, de confronter leur histoire et d'aborder la fameuse question du genre. On écoute ça tout de suite dans Sortez.
Je ne veux pas utiliser la phrase « faire l'amour », mais coucher avec quelqu'un, c'est énorme, tu vois. Je suis pas active, mais je suis une chaude lapine, d'une certaine façon. Mais quand il s'agit de ma copine, c'est tout.
J'en suis à vouloir enculer mon mec. Voilà où j'en suis. Non, mais c'est vrai, en plus. Mon mec qui parle au féminin quand il commence à parler avec moi de choses un peu intimes pour lui.
Je suis quelqu'un qui aime les préliminaires qui durent très longtemps et qui aime faire dodo après dans les bras de sa nana, tu vois. Je suis trop gnangnan, je le sais.
Déjà pour Darwin, les dimorphismes sexuels en tant que caractère biologique évolue moins sous l'influence de pression de l'environnement que sous l'influence des comportements sociaux propres à l'espèce.
Les UEH, Université d'été euroméditerranéenne des homosexualités, sont une expérience féministe de vie et de gestion collective.
Je m'appelle, mon surnom est Kitty, j'ai 24 ans, je suis algérienne, je vis à Alger, je suis étudiante.
À la naissance, ma mère a touché mon corps et a dit que j'étais un garçon, et mon frère est allé à l'école le lendemain, il a crié partout, j'ai un petit frère, il s'appelle Pierre, donc là je m'appelle Pierre. J'ai 24 ans. Je suis pas une artiste qui fait de l'art, je suis quelqu'un qui vit pour faire de l'art.
Atelier massage mixte de 17 à 19 heures au Calinodrome. Parlons-nous et parlons de nous. Quel est l'impact de la séropositivité dans nos relations sociales, dans nos relations affectives ou sexuelles? Atelier propre, non mixte, séropo.
C'est au collège que je me suis rendu compte que j'étais, que j'avais une orientation un peu délicate.
Orientation sexuelle, ça veut dire quand, enfin moi j'aime des personnes, j'aime pas des sexes, je m'en fous des sexes. Moi, j'ai envie d'être libre de me sentir homme et femme. C'est tout.
J'aurais aimé être un mec pédé qu'être une nana lesbienne. Je le dis. Déjà, être femme, c'est difficile dans un pays arabe, musulman et tout. Alors là, être lesbienne, femme et lesbienne, c'est vraiment la cata.
Construire une masculinité trans, pour moi, ça pose tout d'abord le problème du manque de modèles. Les rap projets faisant le tour du monde occidental nous ont présenté tout d'abord des masculinités trans, nord-américano-centrées et plutôt blancho-centrées. Ce qui replace forcément la masculinité trans-blanche comme référentiel, avec les attributs générationnels et géographiques qui lui sont attribués, virilité, tatouage, phallocentrisme, hétérosexualité et graffiti.
C'est la première fois.
Est-ce que ça va si on se fait ça après la GE demain en mangeant ensemble comme ça?
Je crois que je suis encore dans un état de d'observation.
C'est ma première fois aux UEH. Au début, je me suis dit c'est quoi ça et tout, me retrouver avec plein d'homosexuels. C'est pas trop mon truc, je suis pas très communauté homo.
Est-ce qu'on pourrait essayer de se décaler pour que toutes les personnes puissent entrer parce qu'au
moins créer un passage quoi.
Ouais, créer un passage, c'est bien aussi.
Du coup, je me suis dit bon, je vais y aller, mais juste pour faire mon atelier et tout, et je suis là aux UEH à Marseille. C'est une expérience à vivre.
On passe au point suivant. Oui.
Quelle salle on peut mettre à la disposition pour faire une backroom de façon à ce que celles et ceux qui veulent avoir des relations sexuelles à l'ESBAM puissent le faire sans qu'elles aillent dans des endroits où elles n'ont pas allé?
C'était une proposition comme ça?
C'était une question, oui, sérieux.
C'est une question.
Je ne sais pas, je ne sais pas s'il n'y a pas une salle de livres, on peut dire, bah voilà, la backroom, c'est telle salle. Alors, bien entendu, c'est pas la peine de préciser que quand on utilise ce type de lieu, bon, bah forcément, quand on s'en va, on le nettoie. Enfin.
Bah si, c'est peut-être la peine de le préciser, justement.
C'est non, c'est une évidence, on va pas le préciser. Oui.
Je me dis qu'en Algérie, c'est plus facile d'être pédé que d'être lesbienne, je ne sais pas. Il y a leur endroit, leur café, leur hammam, il y a tout pour eux. Par contre, nous, ça se joue juste par rapport au regard.
Le fils anal expliqué à ma grand-mère, à point, avec un G, c'est tout. Viens prendre ce cours, tu verras, ça va te détendre à l'amphithéâtre, 14h mercredi 20 juillet. Nous avons un atelier d'autodéfense trans, non mixte pour les trans. Maximum 12 personnes, c'est à 14h.
L'amour de ma vie, ouais, c'était une femme. Qui d'ailleurs maintenant est devenu un homme. Du coup, c'est vrai qu'en arrivant ici, je me dis, mais où je suis, qui je suis, quoi. Moi, je me sens trans, mais en même temps, d'apparence, je le suis pas, enfin, tu vois.
Je me revendique pas queer, mais non, mais pas du tout, non. Récemment, j'ai appris que gay et pédé, c'était pas la même chose. Gwyn et lesbienne, c'était pas la même chose, alors que je savais pas tout ça, tu vois. C'est aux UEH que j'ai appris tout ça, dans des ateliers où il y a eu des débats. J'ai halluciné, mais je me suis sentie homosexuellement inculte.
Inclure les problématiques du sex work dans les luttes trans-pédé-Gwyn, réseau de réaction euro-africain, un projet de coopération entre les différentes organisations LGBT des deux côtés de la Méditerranée et les moyens de réagir aux situations d'urgence.
Quand tu fais le coming out, tu vas dire quoi? Que tu es homosexuel, ça veut dire homosexuel?
Non, mais non.
Non, c'est vraiment une personne à une autre, tu fais pas la même
chose. Non, mais je veux dire, tu vas dire homosexuel, c'est quoi être homosexuel?
Par rapport à ma famille, c'est super délicat, c'est impossible de le leur dire, de faire un coming out ou un truc comme
oui,
ça.
Oui, mais alors ton coming out, tu le fais
Coucou, je suis homosexuel ou lesbienne. Qu'est-ce que ça veut dire homosexuel? Ils ne savent même pas. Tu vas dire je suis à taille ou la marcaca? Ça fait boum tout de suite, ça claque à taille. C'est l'image qu'ils ont, chérie.
Ma mère, sans doute, c'est clair et net, tu vois. Elle m'a déjà posé la question, mais pour lui dire oui, maman, je suis lesbienne.
Moi, je l'ai fait à 17 ans, donc j'ai ma méthode depuis 17 ans. Moi, je le suis comme ça. Celui qui veut, marhaba, celui qui veut pas, au revoir, chérie. Et en fait, je n'ai jamais eu de problème. Il vient toujours, il revient comme il.
Ouais, mais c'est une décision personnelle. Chacun, il a sa
façon. Oui, mais c'est pour ça que je te dis le concept du coming out, ce n'est pas un concept algéro-algérois. Donc.
Mon père, la première fois qu'il a été confronté à ça, il m'a dit oh, bah, tant que t'es heureuse, moi ça me va. Et ma mère m'a dit oh, j'aurai jamais de petits-enfants.
Il y a quelques années, j'ai créé le premier forum LGBT algérien. Et sur Google, dès qu'on tape gay algérien, il y a le forum qui apparaît. Je suis amoureuse. Et c'est super compliqué par contre. Je l'ai connue il y a 3 ans via le forum. On a passé un an ensemble à Alger. À un certain moment, elle a dû partir en France pour continuer ses études. Elle est sur Paris depuis 2 ans déjà. On se voit un mois chaque 6 mois, tu vois. La dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a dit « Je ne descendrai plus à Alger, je préfère que tu viennes. » Elle se sent trop agressée à Alger. Et on est plus libre sur Paris. En 3 ans, c'est pas toujours stable. Mais bon, on s'aime et puis je compte la rejoindre bientôt, j'espère. Et pour moi, c'est pas une petite copine, c'est ma femme.
Il y a une expérience qui m'a beaucoup plu. C'est que j'ai été désirée par un homme homosexuel qui me désirait parce que j'étais un homme à ses yeux à ce moment-là. Pour moi, c'est ça le désir.
Attends, je vais m'asseoir. Non, alors, inclure les problématiques de la culture dans les luttes, transmettre des bigouines aux USA, c'est pas mal. C'est nouveau, ça, transmettre des bigouines.
Oui,
c'est plus rigolo que transmettre des bigouines, je trouve.
Oui,
transmettre des bigouines. Il y a un côté bigou, il y a un côté.
Transmettre des bigouines.
Bigoudin, bigoudine.
Et les intersexes, alors.
Bah, on te dit qu'on les a enlevés.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent qu'on les définisse. Les hommes, ils souffrent d'être des bricoleurs alors qu'ils ne le sont pas. Qu'on ne se préoccupe pas trop de leur plaisir ou de leur façon de ressentir leurs fantasmes. Ça doit être des mecs qui bandent et qui soient costauds. Et voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Et ils sont où les Québécois?
Non, j'ai
écouté. C'est le truc.
Au speed dating.
Oui, c'est du speed dating platonique. Ah, bah, c'est mais il est 16h, c'est à 17h, on dit.
C'est
maintenant, c'est l'âge maintenant.
C'est
l'âge. Ouais, on y est. Bah, on y est.
Oh, il est trop fort.
Ah, bah, on bouge pas.
On bouge pas.
Allez, connasse.
Ce qui me plaît le moins, c'est le mode ghetto. Là, aux UUH, j'ai l'impression que. Qui sont limite hétérophobes, qui n'acceptent pas les autres. Comme l'espace non mixte, je comprends pas, on est là, tous homosexuels. Je vois pas où est l'intérêt d'avoir un espace non mixte.
J'ai une réaction parce qu'on m'a accusé d'être hétérosexuel plusieurs fois ici. I was accused of being heterosexual because I have a beard, because I'm cisgendered, and because I have a low voice. Je tremble parce que c'est très émotionnel pour moi. Je fais partie de la délégation québécoise, I'm part of the Quebec delegation, et je dois avouer qu'on était assez choqués par le comportement des gens ici. La manière qu'ils abordent l'un l'autre, c'était une manière agressive que, voilà, n'est pas super présente dans notre culture. Je ne sais pas si c'est une question de l'attribuer à la culture française, mais c'est malade. Moi, j'étais super touché, I was extremely touched, des interventions des gens qui venaient du Sud. Parce qu'eux, ils n'ont jamais l'occasion de se rencontrer comme ça ici. C'est une opportunité extrêmement unique. Faut qu'on s'aime. Je vous aime. Et je vous donne le bénéfice de la doute. Et j'espère que vous m'aimez aussi.
comme dans toute communauté ou comme dans tout collectif, ça a son pendant, c'est-à-dire que ça peut enfermer, ça peut lisser, ça peut catégoriser. Mais je pense que c'est toujours important de se retrouver, ouais.
Ouais, je suis révoltée, une rebelle, je dis les choses comme elles sont. Il y a eu des crimes homophobes en Algérie récemment. Il y a eu 7 crimes homophobes en tout, je crois. On nous prend pour des cons. Tout le monde sait qu'on est là, tout le monde sait qu'on existe, mais ils sont dans le déni.
La sexualité, c'est forcément politique, quoi. Parce que, bah voilà, rien que sur ces questions de genre, se sentir un homme, une femme, ou tout ce que ça peut remettre en question dans les profondeurs, ça peut aller chercher loin, quoi. Je supporte pas l'idée d'être victime de quoi que ce soit, quoi. Moi, je dirais que je suis révoltée comme je dirais que je suis vivante, quoi.
Arte Radio.
On est forcément révolté.
Et voilà, c'est la fin de cette émission sélection de podcasts sur les questions queer, en espérant que cette émission vous aura suffisamment diverti. Et j'espère aussi que cette semaine vous aura plu et que vous en savez un peu plus maintenant sur les différentes questions que peut soulever le sujet queer. Dès lundi, vous pourrez retrouver toutes les émissions de cette semaine en format podcast sur le site internet de Radio Campus Tour, donc www.radiocampustour.com. Et sur ce, je vous dis à lundi pour une prochaine émission d'En Sortez sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Au revoir.
The sun goes down another dreamless night. You're right by my side. You wake me up. You say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly, as we fly. Stark Hollow Town, Carson City Light. Another ride. We love.